Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Yeah, yeah. Yeah, Afro Black.
That's right.
Afro Black.
Nous venons d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec le patriarche. Ce monsieur a aujourd'hui 88 ans. Il est pianiste afro-américain et voue une admiration sans borne pour le continent africain. Ce grand monsieur s'appelle Randy Weston et indirectement, il est à l'origine d'un projet qui a germé dans l'esprit vif de notre invité du jour, réaliser un livre sur la source africaine du jazz. Samuel Njakwa, soyez le bienvenu.
Merci, bonjour.
Vous êtes photographe et vous avez fait paraître il y a peu un bel ouvrage, La route du jazz, aux éditions Duta. Peut-on dire que Randy Weston, que nous venons d'entendre, est le symbole vibrant de ce que vous défendez dans cet album de photos?
Randy Weston, oui, parce que lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, c'était en 1994, je crois, il m'a fait comprendre que sa musique était africaine. D'autant plus que la première fois qu'il est arrivé en Afrique, c'est-à-dire en 1961, je crois, à l'occasion d'un voyage avec des gens comme Nina Simone ou Duke Ellington, lorsqu'il est descendu de l'avion, un Nigérien est venu le voir, lui a dit « Ah, mon frère, t'étais où? T'avais disparu? Où t'étais passé ?» Et là, il s'est mis à pleurer, il s'est dit « Là, je suis arrivé en Afrique. » Et donc, cette anecdote m'a permis de comprendre que cet homme se sent profondément africain. D'autant plus que son père lui a rappelé tous les jours qu'il était africain.
Il vous a fallu presque 20 ans pour aboutir à ce beau projet. Après toutes ces rencontres, est-ce que vous pensez que le jazz est africain?
Aujourd'hui, je pense que le jazz est une musique universelle. Le jazz, il y a eu des tentatives pour dire que c'est une musique africaine, mais il y a une base africaine, mais c'est une musique universelle. Aujourd'hui, on parle de jazz français, on parle de jazz d'Europe de l'Est. Tout est jazz aujourd'hui, quoi. Donc, on peut pas dire que le jazz est africain. Le jazz est une musique universelle.
Vous avez beaucoup voyagé pour réaliser ce livre. Vous vous êtes rendu, vous le disiez, évidemment en Afrique, mais aussi dans les Caraïbes, aux États-Unis, au Canada. Quelle région du monde vous a laissé un souvenir fort et pourquoi?
La Martinique. La première fois que je suis allé en Martinique, c'était avec Ralph Tamar. D'ailleurs, Ralph Tamar aurait dû faire partie de ce livre, mais il n'y avait pas trop de place, donc j'ai dû faire des choix. Parce que Ralph Tamar m'a emmené dans la maison des esclaves, enfin, dans les cases nègres, on va dire. Et là, j'ai pleuré. J'ai senti quelque chose qui montait en moi, une douleur, quoi, une douleur inexplicable. Et ensuite, on peut voir dans le livre, il y a une photo qui montre des esclaves en sculpture, qui en fait représente 12 esclaves qui se sont tournés vers l'Afrique et ont plongé dans la falaise.
Vous avez en tout cas su capter l'expressivité des musiciens sur scène et hors de scène. Il y a des photos très étonnantes dans votre livre, comme celle de Courtney Pine, ou celle d'Omar Sosa, celle de Myriam Makeba en famille, ou Maceo Parker qui vous montre du doigt. Vous avez réussi à gagner leur confiance au fil des années. Est-ce que vous avez lié amitié avec certains d'entre eux?
Alors, il y a deux choses très importantes. C'est que chaque fois que j'ai rencontré un artiste, j'étais le seul Africain, le seul Noir. Donc, naturellement, il venait vers moi pour me demander d'où je venais, quelles étaient mes origines. Et voilà, Anton René, par exemple, qui vit à New York, qui est le frère de Wallace René. Quand il vient à Paris, il me dit « Emmène-moi dans un restaurant sénégalais, s'il te plaît. » Je ne suis pas sénégalais, mais il aime bien le restaurant africain.
Et je crois que vous avez une histoire particulière avec un autre grand musicien noir américain, oui, qui s'appelle Ron Carter, qui, oui, fut le bassiste de Miles Davis.
Oui, Ron Carter, qui a joué aussi avec Herbie Hancock, évidemment. Ron Carter, c'est quelqu'un qui est très étonnant, parce que la première fois que je l'ai rencontré, il parlait pas. Je lui ai dit « J'ai envie de vous interviewer. » Il m'a dit « Ouais. Take my email. Envoie-moi tes questions par mail. » Je lui ai envoyé la question par mail. Il m'a répondu très gentiment. Et ensuite, quelques mois plus tard, je lui ai encore écrit. Et j'ai su qu'il venait à Paris. Je lui ai dit que je voulais faire des photos avec lui. Il m'a dit, retrouve-moi après le concert dans les loges. OK. Je suis allé dans les loges. Il m'a dit, OK. Maintenant, tu fais 4 photos. Pas plus. Alors, j'ai commencé. La première, il dit, that's one. La deuxième, that's two. Après, ensuite, j'ai fait 3, 4, 5. Il m'a dit, that's it, man. J'ai dit, ouais, il me dit, you make 5 pictures. J'ai dit, ok. Il m'a dit, now you have to leave me. Et je suis parti. Et les photos, je les ai jamais développées. Parce que je voulais pas voir ce qu'il y avait dedans. Et, l'année dernière, en février 2013, je suis allé à New York. Et je lui ai envoyé un mot, je lui ai dit que je venais à New York. Et il m'a dit, bah, écoute, si tu viens à New York, je vais jouer au Blue Note. Passe me voir, je te mets 2 places. J'étais avec ma femme, il m'a dit, bah, écoute, je te mets 2 places. Donc, je suis allé au Blue Note. Et donc, j'ai commencé à faire des photos de lui. Et à la fin du concert, je suis allé le voir et il est tombé dans mes bras. Il m'a dit, oh my brother, you are here. Oh, come to visit me. Et là, il m'a dit, bah, viens chez moi dans 3 jours, boire le café, on va discuter, tout ça. Et donc, je me suis rendu chez lui et j'étais à l'avance. Quand je suis arrivé, il a regardé l'heure. Il a secoué la tête. Et ensuite, bon, voilà, il m'a présenté à sa femme, à la famille. On a bu du café, du thé et pendant au moins 1 heure avec lui. C'était formidable.
Donc la persévérance paye parfois.
Mais je pense qu'il a besoin d'être mis en confiance aussi. Parce que il me connaissait pas, j'arrive, voilà, et puis il m'a dit, bah, écoute, on va voir ce que tu vas faire, quoi.
Samuel Ndjakwa, cette route du jazz vous a conduit jusqu'à nous aujourd'hui et nous allons continuer à écouter vos récits de voyage dans un instant. Mais d'abord, intéressons-nous au guitariste et cornettiste Olu Dara, autre personnalité proche du continent africain.
Yeah, boy. Mwene Masamba, Masamba Mamfune. My name is Kasa Masamba, born in Congo, Brazzaville.
He's from the Congo, Congo. He's a dancing man. And a drumming man too.
Some of you are telling me we
Masamba, la révérence d'un Américain pour le continent africain, c'était Olu Dara, qui n'est autre que le père du rappeur Nas et qui revendique ses racines africaines. Vous en avez d'ailleurs eu la confirmation sur scène, Samuel Ndjakwa.
Oui, Olu Dara, qui à la fin d'une séance photo que j'ai eu avec lui, donc après est monté sur scène. Et puis on avait tellement discuté avant qu'après le concert, il a présenté tous ses musiciens et puis il a dit « Hey, il y a un ami qui m'est cher, très cher ». Qui est d'origine africaine aussi, Samuel Ndjakwa. Et puis il m'a dit de me lever, et puis le public a applaudi.
Dans ce livre de photos que vous nous présentez aujourd'hui, vous avez eu la bonne idée de titrer chaque page avec les citations des artistes que vous avez immortalisés. Et beaucoup d'entre eux font référence à l'Afrique, par exemple. Au hasard, hein, Richard Bonnat, c'est normal en même temps. La musique est comme un courant, une rivière, et si on la remonte, on retrouve l'Afrique, l'authenticité du jazz. Si on prend page 78, David Murray. À l'Université de Californie, nous parlions autour de la fontaine où il y avait des joueurs de tam-tam, des gens qui agissaient comme dans des tribus africaines. C'était la première fois que j'essayais de rencontrer l'Afrique. Marcus Miller. Je me suis souvent inspiré des rythmes d'Afrique de l'Ouest.
Et souvent, il dit que quand il joue de la basse, il fait des slaps comme des percussions.
C'est vrai. Randy Weston. Peu importe depuis quand je joue, je ne serai jamais meilleur que ceux qui jouent dans les villages africains. C'est beau à entendre ça. Et puis j'ai choisi un dernier, Courtney Pine. Lorsque je suis sur scène, je finis mes concerts par un rythme africain. J'aime beaucoup Big Blow de Manu Dibango.
Oui, ça je confirme, hein. Je l'ai vu jouer Big Blow, un concert de Manu Dibango d'ailleurs.
Vous en avez d'autres à nous lire, vous ?
Oui, je peux vous lire celle de Archie Shepp, qui est saxophoniste. Je joue de la musique noire. Pas celle née officiellement aux États-Unis à partir de 1917, celle qui vient d'Afrique. C'est de là que vient son inspiration, sa fondation. Cassandra Wilson, la source du blues, du jazz, de la soul, du rock, du funk est l'Afrique. Sans le rythme, rien n'existe. Le rythme donne vie à la musique. Le rythme est l'essence du jazz, du blues, du funk et du R&B.
Et vous avez Calypso Rose aussi.
Ah oui, Calypso Rose, elle est fantastique cette femme. Elle dit « Je suis descendante d'esclaves et c'est pour leur rendre hommage que je parle de ce continent dans ma musique. » Donc Calypso Rose est une grande chanteuse de Trinidad qui vit d'ailleurs maintenant aux États-Unis.
Et puis il y a aussi Abel Lincoln, la plus grande pour moi. Ouais. « Ma musique est africaine, on l'appelle jazz, mais c'est l'esprit africain qui a été transporté en Amérique.
Oui. »
Cette dame vous a laissé un souvenir émouvant, je crois.
Alors c'était après sa balance pour lui faire l'interview et puis la photographier. Donc je lui ai demandé quelle était l'influence de l'Afrique et de l'esclavage dans sa musique. Et elle m'a regardé et elle m'a dit « Oh, I'm tired of this ». Et elle s'est mise à pleurer. Et donc elle est tombée dans mes bras et puis on est restés tous les deux. Et puis après on a pu continuer à discuter. Voilà, mais c'était un moment un peu émouvant. Mais j'ai pas fait de photo par contre parce que je voulais pas qu'on la voie avec des larmes aux yeux.
Écoutons la voix sombre et majestueuse d'une vraie combattante, Abel Lincoln.
Music is the magic of a secret world. Secret world of a secret world. Your music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. Your music is the magic of a magic of a secret world, secret world. Your music is the magic of a secret world. It's a world that's always within.
The music is the magic, la très regrettée Abel Lincoln, disparu le 14 août 2010 à 80 ans et que vous avez eu la chance de photographier Samuel Njakwa en 98 à la Cité de la Musique à Paris. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque de constituer un patrimoine visuel qui resterait ? Est-ce que c'était déjà votre but il y a 15 ans ?
Non, mon but était juste de faire les photos de mes idoles, quoi, en fait. Parce que je me souviens qu'étant enfant, mon père adorait Max Roach. Il tapait toujours toum, ta 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 toum. Et ce rythme-là m'est resté dans la tête. Et donc, c'est beaucoup plus par amour pour la musique que je faisais des photos. j'avais pas l'idée d'en faire un livre au départ. Puis au fil des années, je me suis dit, ah mais j'ai une bonne photothèque et puis il faut que je fasse quelque chose avec.
Donc vous avez réalisé au fil des années que vous aviez entre vos mains un vrai patrimoine.
Oui, parce que quand j'ai commencé à faire des expositions photo, on m'a dit, mais vous n'avez pas une revue, un livre pour qu'on puisse emporter ça, parce que une photo c'est pas suffisant, il en faut au moins 15, 20. Et donc là j'ai commencé à dire, ah oui, il faudrait en faire quelque chose.
Voilà. C'est Manu Dibango, vous le disiez, qui préface votre livre. Pourquoi Manu Dibango?
Mais parce que je suis Camerounais et comme Manu Dibango est pour moi un symbole, c'est comme une bibliothèque de la musique africaine et même du jazz. Et puis c'est aussi le lien, parce qu'il a joué à l'Apollo, il est sur le lien entre l'Afrique et les États-Unis. Il est reconnu aussi bien ici, en France, qu'en Afrique, que dans les Caraïbes ou aux États-Unis. Quand il parle de la musique, il m'a parlé de l'époque de Duke Ellington. À travers lui, on voit les années passées, les années jazz passées, les années même de la rumba africaine passées. Toute la musique à travers un seul homme, c'est fantastique ça.
Parlons maintenant de James Carter, saxophoniste de grand talent, avec qui vous avez eu un contact privilégié.
James Carter, qui est l'oncle de Regina Carter, je pense.
La violoniste.
La violoniste, oui. Absolument. Mais James Carter, c'était aussi, on avait eu une grande discussion autour de l'Afrique et il devait donc jouer pour le festival Banlieue Bleue. Il a fait son concert et puis à la fin du concert, les gens sont tombés sur lui pour lui dire « Ah, c'est fantastique !» Il dit « Non, 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 I have to see someone. Appelez-moi Samuel Njakwa. » Et quand je suis arrivé, il dit « Alors, j'étais comment ?»
Et vous étiez son référent, en quelque sorte.
Pour un soir.
Hein. Exactement. Ce monsieur est en tout cas un passionné d'histoire, puisqu'il s'est intéressé au jazz européen, et notamment à travers Django Reinhardt, au jazz américain, à travers Billie Holiday, à qui il a consacré un album entier, et puis au blues, puisque sur son dernier album, At the Crossroads, qu'on pourrait traduire par À la croisée des chemins, il imprime une musicalité blues avec ce titre, Rumbling Blues.
I've got to go. I should start running, 'cause walking is way too slow.
Rumbling Blues, le saxophoniste James Carter avec au chant Mitch Braden. Samuel Njakwa, on pourrait parler des heures avec vous, puisque même hors antenne, vous avez des anecdotes à nous conter. Ouais. Et tout à l'heure, donc pendant que nous écoutions James Carter, vous me parliez du pianiste Danilo Pérez.
Oui, Danilo Pérez, je voulais l'interviewer. Il m'a dit, écoute, pas maintenant parce que je joue avec Wayne Shorter, mais si tu veux, dans 2 ans, je crois que c'était en 2001, dans 2 ans, je joue au Palais des Congrès à Paris et retrouve-moi à l'entrée des artistes. Je dis ok. 2 ans plus tard, je regarde mon agenda et puis je dis, ah, j'ai rendez-vous et puis j'y vais. Je me dis, bon, je vais aller comme ça, on verra bien, quoi. Et donc, je suis arrivé devant l'entrée des artistes au Palais des Congrès. Il était là, il m'attendait.
2 ans après.
2 ans après. Et donc, je suis rentré. Il m'a dit, I have a big surprise for you.
J'ai une surprise pour toi.
Ah oui, oui. Et il me présente Ray Charles.
Ray Charles?
Ah, oui. Et c'était en 2003.
Incroyable.
J'avais Ray Charles en face de moi. Et donc, je serrais la main de Ray Charles et tout ça. Et puis, Ray Charles est rentré dans sa loge. Évidemment, j'ai voulu le photographier, mais je me suis rappelé que j'étais quand même là pour Danilo Pérez. Donc, j'ai fait l'interview de Danilo Pérez. Puis après, Ray Charles, j'ai demandé à faire des photos. Ils m'ont dit, bon, mais écoute, tu auras droit à 2 chansons devant la scène.
Et c'est pour ça qu'on a Ray Charles dans ce livre aujourd'hui.
Voilà.
Incroyable. Quelle est la photo dont vous êtes le plus fier dans ce livre?
Elles sont toutes... Enfin, il n'y en a pas une, parce que chacune me rappelle des moments précieux et des moments aussi intenses avec l'artiste.
Il y a de très belles photos, chez Tidiane Seck, par exemple.
Tidiane Seck, oui, j'aime bien aussi. Il y a
Francis Bébé.
Francis Bébé, c'était chez lui aussi.
Hugh Masekela, Abdoulaye Ibrahim, Tony Allen, batteur de Fela. La couverture du livre montre Lise McCombe, la chanteuse de gospel, de dos. C'était un choix ou vous étiez tout simplement mal placé ce jour-là?
Non, enfin, j'étais pas mal placé, mais c'était à l'église Saint-Sulpice, lors du festival Jazz à Saint-Germain.
À Paris.
Il y avait beaucoup de photographes dans la salle. Et donc, moi, j'ai dit, écoute, je vais pas faire les photos comme tout le monde, je vais mettre derrière la chanteuse. Et comme par hasard, ce jour-là, on a viré tous les photographes, mais on m'a oublié. Et donc, comme je ne pouvais pas bouger, je me suis retrouvé à faire plein de photos de dos de l'artiste. Je me suis dit, ah, c'est pas mal comme idée. Et donc, chaque fois qu'il faisait un geste, je faisais une photo. Voilà.
Et l'idée de choisir cette photo comme couverture du livre est en tout cas judicieuse.
Mais c'était pas gagné. Il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit non, elle parle pas, elle est pas vendeuse. Mais moi, j'étais convaincu qu'elle était beaucoup plus artistique.
Est-ce qu'on a le temps de se préparer quand on est dans les coulisses ou devant la scène, ou est-ce qu'il faut improviser?
C'est comme du jazz, hein. Je veux dire que c'est selon la lumière, c'est selon l'humeur de l'artiste, selon même l'humeur de l'éclairagiste aussi, qui des fois met très peu de lumière, ou des fois même quand on nous dit vous avez droit à 3 chansons, et donc au début il y a pas de lumière, et au bout de la 4e chanson il y a plein de lumière et on peut pas faire de photo. Et c'est pour ça que des fois moi je privilégie beaucoup plus les loges ou les artistes qui sont chez eux, quoi.
Est-ce que vous avez de quoi concevoir un tome 2 de La Route du Jazz, ou faudra-t-il attendre 15 ans?
Ah non, non, là j'ai vraiment de quoi faire. D'ailleurs, si vous remarquez dans le livre, il n'y a pas d'Européens. Donc,
c'est vrai.
J'ai commencé à penser à mettre aussi des Indiens, le Gurtu. Plein de gens. En fait, le jazz est devenu une musique universelle. Donc, Dave Holland.
Dave Holland, qui était le contrebassiste de Miles Davis.
Miles Davis, voilà.
Daniel Humer.
Julien Louraud.
Grand saxophoniste français.
Donc, il y a plein de gens que j'ai photographiés aussi. Donc, la route est longue.
Je rappelle en tout cas que La Route du Jazz de Samuel Njakwa est disponible aux éditions Duta. Et puisqu'on parlait de Lise McCombe, la voici.
I wanna be in that number, and in fact I'm gonna be in that number when the saints go marching in. Yeah.
Yeah. Y'all didn't think we can do this one. Would use my symbol, but since I am a rapper, I'ma use my lyrical tactics. Acrobatics fill me all day. No matter who or what we are, we must praise. Praise up, sing your praise up. Don't worry about being cute, we bout to tear this church up. Run the boat, shoot me on the middle. I'm one in a million, like Aaliyah, play my flows like a fiddle. I wanna be in a number. Call your sister and your brother, father and your mother. Can't wait to hug you. Jesus is the king, can't place no one above you. I got the bread and God got the butter. Try to show me better, but I can't find another. In a storefront or in a metrodome, taking me home with the voice of Liz McCombe. Just get down with the spirit. You'll never wanna get physical. Preaching words through my pencil when I be hitting your mental with the biblical, never typical word that I preach. Ready to reach, ready to teach. So I.
Owens the Saints, un classique gospel revitalisé par Lise McCombe en 2007 avec le concours du rappeur Tony Dorsey. Lise McCombe dont je vous conseille le dernier album Brassland. Il n'y a pas que des photos dans votre livre, Samuel Njakwa, il y a aussi beaucoup de textes.
le livre a une vocation aussi pédagogique, enfin je pense, hein. Et donc il y a un texte historique, mais très court, hein, de 2-3 pages, de la journaliste bretonne Catherine Vachon. Et puis à la fin, il y a la postface de Doudou Dienne.
Doudou Dienne qui est, on le rappelle, l'ancien directeur de la division des projets interculturels à l'UNESCO.
Et qui a initié la route des esclaves.
Absolument.
Comme par hasard, on a parlé de musique et d'esclavage. Et donc d'ailleurs, c'était cette interview que j'ai transcrit avec son accord, bien sûr, dans le livre. Donc c'est lui qui a aussi, quelque part, initié le livre.
Quant à vous, Samuel Ndjakwa, vous serez à Marseille bientôt, le 27 juin, pour le vernissage d'une exposition qui vous sera consacrée dans le cadre du Festival Jazz des 5 continents jusqu'au 26 juillet. Et vous serez également les 8, 11 et 12 juillet à la librairie La Luciole à Vienne, oui, dans le cadre du Festival Jazz à Vienne. En d'autres mots, vous passerez vos traités dans le sud de la France sur la route du jazz.
Tout à fait.
Merci.
Merci, Bio,
d'être passé. Ça nous a fait vraiment plaisir. D'autant que, on va dire la vérité, on se connaît depuis très longtemps. On s'est croisé la toute première fois au concert de Paco Seri, oui, au New Morning à Paris.
Et l'album s'appelait Voyage.
Et ce livre que vous nous présentez aujourd'hui est un véritable voyage.
Tout à fait.
Donc la boucle est bouclée.
Presque.
Merci d'être passé.
Merci, Joe Farmer.
À bientôt.
À bientôt.
La semaine prochaine, nous serons en Normandie, dans le nord-ouest de la France, en compagnie du pianiste Monty Alexander, jazzman jamaïcain dont l'immense carrière méritait bien une épopée, que nous réaliserons dans le cadre du festival Jazz sous les pommiers qui se tient à Coutances toute cette semaine, avec des artistes aussi divers que Michel Camilo de Saint-Domingue, Dr. John de la Nouvelle-Orléans, Cheka du Cap-Vert, Diane Reeves de Détroit ou Bibi Tanga de Bangui en Centrafrique. Jazz sous les pommiers, c'est donc jusqu'au 31 mai. Merci à Nathalie Laporte qui a mis en musique les images de notre invité du jour. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.